Alors, si vous voulez me suivre, on va aller au chapitre 3 de l'Apocalypse, les versets 1 à 6. Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6. Alors, pouvez-vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, je vais vous asseoir. Excusez. Alors, j'ai intitulé tout simplement le message aujourd'hui « Lettre à l'Église de Sardes, tu as la réputation d'être vivant » mais tu es mort. Je pense que c'est l'idée principale qu'il y a à l'intérieur du texte. C'est une église qui s'en allait s'affaiblissant. Il y avait fort probablement beaucoup d'inconvertis dans l'église. Et il y avait encore des chrétiens qui s'affaiblissaient, qui avaient besoin d'être fortifiés parce que ça allait pas bien dans leur vie. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Alors, si vous voulez, on va juste demander au Seigneur de bénir notre étude. Alors, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous venons en ta présence, nous t'adorons, nous t'aimons. Nous désirons, Seigneur, comprendre ta parole et retirer les principes que tu veux nous enseigner pour modifier notre vie, changer nos vies, apprendre des choses que tu veux qu'on apprenne pour la conduite de nos vies, notre marche chrétienne. Alors que ton Saint-Esprit nous éclaire, nous guide, nous ouvre à l'intelligence, à la compréhension de ta parole. Et surtout, Seigneur, à ce qu'on retienne les principes que tu veux nous enseigner pour que vraiment on les mette en pratique dans notre vie de tous les jours, car c'est le but de chacun des enseignements que tu permets qu'on reçoive dans nos vies. Et tu veux nous transformer, tu veux nous améliorer, faire de nous des meilleurs chrétiens et pour ta plus grande gloire. Nous te demandons ta bénédiction, nous implorons ta miséricorde et ta lumière, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment grandir ce matin. On te demande ces choses en Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on a l'Église, la lettre à l'Église de Sardes. Moi, je vois trois idées. D'abord, le Seigneur, il fait une constatation sur l'état général de l'Église. On va voir un petit peu ces choses-là tantôt. Et versets 3 et 4, le Seigneur veut les conscientiser par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Et les versets 5 et 6, je pense que l'idée principale, c'est plus de... Il les invite à se reconsacrer au Seigneur et à corriger ce qu'il y a à corriger dans leur vie. Alors, on avait vu dans les leçons précédentes que Jésus est rendu au ciel dans son corps ressuscité, mais il est une personne... un être exceptionnel, particulier. Il est à la fois dans le ciel avec son corps ressuscité, mais dans son corps ressuscité, il y a encore la pleine divinité et il avait besoin de rappeler à ces églises qui souffraient de cette époque-là de qui il est. On avait vu au cours des sermons précédents qu'il y avait besoin de se faire rappeler qui il était. Dieu Tout-Puissant, souverain, qui contrôle, qui voit tout, qui est présent partout. Et il avait besoin de leur rappeler ça. C'est ce qu'il a fait aussi pour leur montrer qu'il avait le plein contrôle sur tout ce qui se passait à l'époque. Il voulait aussi les avertir qu'ils couraient des graves dangers. Parmi les dangers qu'ils couraient, c'est celui de l'idolâtrie. Il y avait l'empereur qui était l'être à peu près le plus pourri qui ne pouvait pas exister à l'époque, qui se prenait pour un dieu. Il voulait se faire adorer. Imaginez-vous, un homme qui veut se faire adorer. Non seulement un homme, mais dans les pires, qui voulait se faire adorer. Il y avait aussi tous les problèmes que chaque personne qui avait un métier de l'époque, chaque métier avait un dieu auquel il rendait des hommages, et c'était régulier, ils se réunissaient, et quand ils se réunissaient, ben, c'était pour adorer ce dieu-là, mais ça finissait toujours par une orgie de type sexuel. Alors l'immoralité était ambiante dans toutes ces villes-là, et le Seigneur avait besoin de venir leur dire « Attention, on ne fait pas n'importe quoi quand on est chrétien. » Donc l'idolâtrie avait des cultes à des faux dieux, et il y avait l'ambiance qui régnait autour d'eux, c'était de la débauche. Puis on avait vu dans les leçons précédentes aussi qu'il y avait une enseignante qui enseignait que c'était correct. À quelque part, il y avait beaucoup de sollicitations au mal autour d'eux. Mais les seigneurs, non seulement ils voulaient les avertir, mais ils voulaient aussi les préparer. Moi, ce que j'aime de la Bible du Seigneur, c'est qu'il n'essaie pas de nous dorer la pilule. Il n'essaie pas de nous faire voir qu'on n'aura pas de problème. Il nous a toujours dit, quand vous lisez le Nouveau Testament, Jésus nous rappelle que moi, j'ai été maltraité, puis vous ne serez pas différent de moi. Vous allez être aussi maltraité. Alors, il est en train de dire à ces gens-là, vous vivez des situations pénibles, difficiles, douloureuses, mais je ne vous dors pas la pilule en vous disant, c'est fini, vous ne connaîtrez plus ça. Au contraire, il les avertit que ça va durer encore quelque temps. Et aussi, il veut les encourager, parce que si des personnes, si ça nous arrivait à nous, du jour au lendemain, que la société changerait, puis qu'on se mettrait à nous faire des pressions de ce niveau-là que ces gens-là ont connu à cette époque-là, le découragement nous guetterait très rapidement, et on aurait besoin d'être encouragé. Le Seigneur, quand il écrit l'Apocalypse, ce que je remarque de plus en plus, c'est que tous les messages aux églises finissent toutes par que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y en a un, c'est ce que si quelqu'un, il parle à des individus, il parle à chacun d'entre nous, là, dans le fond, a des oreilles. Écoute ce que je te dis, fais pas juste. Ça rentre par là, puis ça sort par là. Écoute, puis il dit aux églises. Donc, il ne disait pas juste à l'église de Sardes, le message qu'on va regarder ce matin. Il disait que ça s'adressait aussi à l'ensemble des églises de l'époque, ceux du premier siècle. Mais la parole de Dieu, vu qu'elle est parfaite, le Seigneur, quand il l'a écrit, il voyait toutes les églises de tous les pays, de toutes les époques, venues jusqu'à aujourd'hui, incluant la nôtre. Alors, le message de l'Église de Sardes, il s'adresse à la nôtre aussi. Il faut se souvenir de ça. Donc, il y avait besoin d'encouragement, puis il y avait besoin de consolation. S'il y avait quelqu'un d'entre nous qui se ferait sacrer en prison, ou qui se ferait envoyer sur une île déserte, ou qui se ferait maltraiter, on serait attristé, puis on aurait besoin d'être consolé. C'est ce que le Seigneur fait exactement avec cette Église-là. Alors, on avait vu dans les leçons précédentes, c'est important de se souvenir que le chapitre 1, lorsque le Seigneur aura rappelé des choses à son Église, qu'est-ce qu'il leur a rappelé? Il leur a rappelé des choses sur sa personne. On le sait, tous ces chrétiens-là avaient des connaissances sur Jésus-Christ, des connaissances sur les Écritures, mais il y avait certaines choses qui avaient besoin de se faire rappeler, qui étaient en rapport avec les circonstances particulières que ces gens-là vivaient. Donc, il avait besoin de leur rappeler son omnipotence. Ça veut dire sa toute-puissance. Quand on parle de la toute-puissance de Jésus, il est au ciel, quand on s'adresse à Jésus pour le prier, justement, hier, on avait le cours du catéchisme d'Heidelberg, puis c'est venu un petit peu sur le sujet. La puissance, des fois, on a tendance à rabaisser Jésus juste au rang d'un homme. On se souvient de lui, il est venu sur la terre, il a fait toutes sortes de choses. Mais on dirait qu'on oublie, oui, il était cet homme-là, tendre, toutes les qualités humaines possibles, imaginables, il obéit à son père en tout temps. Mais en même temps, quand on pense à ça, hier, on parlait de ça, durant toutes les années que les disciples l'ont vu sur la terre, ça a pris une éternité, qu'on pourrait dire quasiment, avant de reconnaître qui il était véritablement. Ça a pris la transfiguration sur la montagne pour qu'il commence à réaliser que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il était homme-Dieu, avec un trait d'union. Il était à la fois pleinement homme avec ce que ça implique d'être un homme, puis il était pleinement Dieu avec tout ce que ça implique d'être pleinement Dieu. Mais il est au ciel aujourd'hui avec son corps ressuscité. Il est encore homme, il est encore Dieu. Mais homme différent, encore ressuscité, c'est différent. Donc, il avait besoin de leur rappeler son omnipotence, donc le fait qu'il est tout puissant. Alors, quand on s'adresse à Jésus, on le sait, on a tous des problèmes. Des personnes qui vieillissent, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui vivent toutes sortes de difficultés avec leurs enfants, avec leurs... Quand on s'adresse à Jésus, il ne faut jamais oublier que Jésus est tout puissant. Il est capable d'agir sur quelques problèmes que ce soit qu'on a dans nos vies. Il était aussi omniscient. Ça veut dire que ces gens-là, on peut porter... Quand on a des gros troubles, là, c'est quoi notre réaction d'habitude qu'on a? « Ah, oh, Dieu m'a oublié. » N'est-ce pas qu'on pense ça des fois? On pense que le Seigneur nous a oubliés. Donc l'omniscience, il est en train de leur rappeler, « Ne vous en faites pas, je sais, dans les détails, les moindres détails, tout ce que vous vivez, à l'église de Sardes de l'époque, mais avec l'église de Nantes aussi. » C'est ça le passage. Il sait tout ce qui se passe dans toutes nos vies individuelles et dans notre vie collective, notre vie d'Église. Et l'omniprésence, il avait besoin de leur rappeler qu'il est présent dans tout ce qu'on vit, à la fois dans nos vies individuelles et à la fois dans la vie collective. Omniprésent. On l'avait parlé la dernière fois. Est-ce qu'on est conscient qu'il est ici ce matin? Il est ici, il dit dans les Écritures, il l'est, mais des fois, on peut faire un culte, puis c'est comme si on ne sera pas pleinement conscient de la présence de Christ. Il est présent au milieu de nous. Donc, il leur rappelle aussi sa souveraineté absolue. Souveraineté, ça veut dire, je me souviens, une fois, j'avais prêché à une église, puis il y avait une femme qui était venue me voir après, elle a dit, c'est quoi ça, la souveraineté? On avait parlé pendant une heure, mais elle n'avait pas saisi l'idée. L'idée, la souveraineté, c'est t'es le maître, tu règnes. Tu règnes sur toute chose, sur toute ta création, sur la vie des individus, sur la vie des nations, sur la vie de ceux qui faisaient du mal à son peuple. Il règne, ça veut dire c'est lui qui est le patron. Quand on dit que quelqu'un est souverain, c'est ça. Donc, il y a la souveraineté absolue sur tous les événements de la terre. Autant chez les chrétiens que chez les païens. Il n'y a rien sur lequel il n'a pas le plein contrôle. Autre chose qu'il voulait qu'il sache, c'est qu'il continue. Un des rôles du sacrificateur, du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, c'était d'intercéder pour le peuple. Après qu'il sortait, il fallait son rôle, c'était d'intercéder pour le peuple. Jésus est notre souverain sacrificateur et il continue d'intercéder pour chacun d'entre nous. Quand on s'arrête à y penser, là, Jésus parle de vous d'une façon particulière en parlant de votre nom à vous. Ce qui vous démontre une chose, c'est qu'aux yeux de Jésus, vous êtes précieux, on en parlait hier. C'est vrai qu'on a tendance, des fois, dans les prédications, à toujours mettre l'accent sur le péché, puis vous faites dur. Puis c'est vrai qu'on a un côté qui fait dur, parce que dans le sens qu'on est, des pécheurs, puis on dirait qu'on était incorrigible. Mais d'un autre côté, aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, on est extrêmement précieux. Il nous aime. Des fois, ça fait partie du mystère de la vie chrétienne. Des fois, surtout quand ça va mal dans ta vie, là, puis t'as tombé, puis t'as fait une bêtise, puis là, tu te dis, « Ah, je fais donc bien dur. » Puis là, tu te rappelles qui Jésus. Il t'aime pareil. Si t'es vraiment un élu, là, t'es vraiment sauvé, le Seigneur, il t'aime pareil. Ça, quand on s'arrête à y penser, s'il y a quelque chose de grand là-dedans, de très grand. Alors, le Seigneur veut qu'on sache qu'il intercède pour nous. Et, autre chose, il veut qu'on se souvienne qu'il est le juge cosmique. Le juge cosmique, ça veut dire qu'il n'y a rien sur lequel il n'a pas le plein pouvoir. les gens qui faisaient du mal aux chrétiens de l'époque, là, le Seigneur a le pouvoir pour les juger en n'importe quel temps, puis il l'a fait aussi au cours de l'histoire de l'Église, là, il y a plein d'exemples où le Seigneur a jugé sévèrement ceux qui faisaient du mal au peuple de Dieu. Il veut que ces personnes-là se souviennent, puis dans nos propres vies, il veut qu'on se souvienne aussi. Il va tolérer qu'on nous fasse du mal, pour ses raisons, pour nous faire grandir, mais quand que la masse tombe, là, comme tu sais, le bâton du juge, pouf, quand il juge, là, c'est définitif et c'est irréversible, comme on dit. Donc, à quelque part, dans ses messages aux églises, le Seigneur a toujours voulu, si vous regardez dans les messages des précédents, là, on est rendu à la quatrième église, une sept, il nous montre toujours, le Seigneur fait souvent mention de la force de l'Église. Ce qui est remarquable, c'est que dans l'Église de Sardes, il ne commence pas par souligner sa force. Il commence par les blâmer tout de suite. Ça, ce n'est pas un bon signe pour une Église. Avec le Seigneur, la première chose qu'il dit à l'Église, c'est un blâme. Au moins, les autres Églises, ils ont eu un petit peu des tu sais, le Seigneur soulignait le côté « qu'est-ce qu'ils font de bien ?» Alors, le Seigneur, souvent dans les autres messages, avec les autres églises, il souligne leur force, mais il souligne aussi leur faiblesse et leurs infidélités. Qu'est-ce que tu fais de correct? Il mentionne. Qu'est-ce que tu fais de pas correct? Il ne se gêne pas pour te le dire, lui non plus. Et les forces qu'on a vues dans les leçons passées, qu'il a remarquées dans ces églises, il a remarqué les choses suivantes. L'amour. Il a remarqué les bonnes œuvres. Donc, ce qu'on fait pour le Seigneur quand on fait du service, quelques services qu'on fasse dans l'Église qui a pour but d'améliorer l'Église, la bâtisse, s'entraider entre nous, tout ça, il n'y a rien qui ne lui échappe. Donc, les bonnes œuvres, la persévérance, il a souvent dit, tu persévères malgré les difficultés. Bien, si on regarde chacun d'entre nous, on sait le nombre d'années qu'on est chrétien. Moi, je suis rendu à 41 ans. Bien, si je suis encore ici, c'est parce qu'à quelque part, j'ai persévéré, malgré les difficultés. J'en ai eu des difficultés. Vous en avez eu, tout le monde en a. Et quand on persévère, c'est un signe que Dieu nous fait les grâces nécessaires pour qu'on puisse continuer. La fidélité. Il y avait une église auquel il avait dit que t'es tellement fidèle que même au prix de ta vie, tu ne me renieras pas. Et si on arrivait à un jour là, où que on devrait continuer ou pas avec le Seigneur, puis que ça sera au prix de nos vies, là, ça nous mettrait au blanc sérieusement. La discipline ecclésiastique, quand une église fait la discipline chez ses membres, c'est une bonne chose, c'est une grâce de Dieu. Et quand le Seigneur, dans les autres églises qu'on a étudiées, quand le Seigneur se rendait compte qu'une église faisait son travail d'exclure ceux qui faisaient pas les choses correctement, et il a toujours souligné le côté correct de ça. Aussi, il leur a souvent mentionné le rejet des faux enseignants. Si vous vous rendez compte, comme église, il y a des faux enseignements ou des faux enseignants, surtout. Parce que ici, si c'est une petite église, c'est presque toujours la même. C'est pas trop, c'est moins compliqué, là. Mais quand ça commence à être des grosses églises, des fois, tu as 8, 10, 12 enseignants. Faut-tu faire attention pour pas qu'il y ait quelqu'un qui commence à introduire des faux enseignements dans l'église. Il aura souligné aussi la patience, le courage, le zèle, le contrôle de soi face à l'immoralité ambiante. C'est très facile de tomber dans le péché quand tout le monde autour de toi, si tu y vas, le monde en remarquera fort probablement presque pas. C'est bien plus dur quand tout va mal autour de nous et qu'on est sollicité par le mal de dire non. Quand tout le monde autour s'est rendu que tout le monde tolère à peu près tout ce qui se passe autour de toi. Le Seigneur aussi était très lucide concernant leur faiblesse. Avec l'église d'Éphèse, t'as quoi? Il a pas dit tu as perdu ton premier amour, il a dit tu as abandonné ton premier amour. Pas pareil. Abandonner, c'est ta faute, c'est toi qui as abandonné. Il y avait aussi les tentations au découragement. Ils savaient très bien que ces gens-là finissaient par être découragés. Il y avait des tentations de tout abandonner. Il y avait la débauche et la peur et la pression qu'il y avait autour d'eux de la part du malin. Il y avait une autre chose qui guettait, puis c'est un petit peu ce qu'on va revoir ce matin, le formalisme. Avec les années, une église locale risque de se ce qu'on appelle se scléroser. Les gens viennent, mais c'est, on dirait que c'est plus rien que la forme. Tu viens pour la forme. Le cœur est plus là. Alors ça, c'est dangereux. C'est ça qu'on va voir ce matin. Alors, il y avait des séductions à cette époque-là, du mal sur à peu près toutes ses formes. Il y avait du refroidissement. Ces églises-là avaient besoin que le Seigneur vienne leur rappeler des choses, vienne leur commander des choses aussi. Vous remarquerez qu'à la fin, qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Des fois, c'est des conseils, mais des fois, c'est des commandements. Alors, les conseils que le Seigneur donne à son peuple sont toujours sages, absolument nécessaires, et ils ont une autre caractéristique, ils sont remplis d'amour. Les chrétiens ont besoin de se souvenir, de se repentir et de redresser leur situation. Les croyants doivent continuer de haïr et de rejeter le mal sous toutes ses formes, d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de lui obéir. Le Seigneur les exhorte à garder les yeux fixés sur lui et sur l'héritage promis et sur la victoire finale. Il leur rappelle souvent ça. Garde les yeux fixés sur moi, garde les yeux fixés sur moi. Ils ont besoin de continuer à pratiquer la discipline ecclésiastique. Qu'est-ce qu'on entend par discipline ecclésiastique? C'est que, comme Église, bien sûr, le pasteur a un rôle particulier à maintenir la discipline dans l'Église, mais aussi l'Église. L'Église aussi, parce que si l'Église se met à tolérer n'importe quoi, souvent ça déteint sur le pasteur aussi, tu sais. Il a peur d'intervenir parce qu'il se dit « Ah, ils vont chialer ». Alors, quelque part, c'est un rôle qui se fait à deux, le pasteur et l'Assemblée, de maintenir l'ordre dans l'Assemblée. Donc, le Seigneur appelle souvent aussi à la vigilance, à l'amour fraternel et à l'utilisation intensive de tous les moyens de grâce. On vient de faire une série, je pense, 24 sermons sur les moyens de grâce. Les moyens de grâce, le Seigneur nous a donné des cadeaux, nous a donné des moyens de se maintenir en forme spirituellement. Si on ne les utilise pas, c'est pas de la faute au Seigneur. C'est de la nôtre. Les moyens sont là et on les a tous expliqués en détail. Et si on les utilise pas, ben là, on n'a pas à dire au Seigneur, « Ah ben là, je me suis refroidi, mais c'est pas de ma faute. » C'est toujours de ta faute. Si tu t'es refroidi, c'est toujours de ta faute. Alors, le verset 1 et 2, il fait la constatation, et comme je disais tantôt, c'est rare qu'il commence en parlant à une église avec un reproche. La première chose qu'il fait, c'est leur faire une réprimande. Il écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. » Regardez les mots. « Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. » Ouch, comme on dit. « Sois vigilant. » Alors, un appel à la vigilance. Autrement dit, en anglais, on dirait « wake up ». Et affermis le reste qui s'en va mourir, il est en train de dire qu'il y a beaucoup de signes de mort spirituelle dans l'Assemblée, mais il y en a quelques-uns qui sont encore récupérables. Et là, il dit au pasteur, ceux-là qui sont encore récupérables, fortifie-les, ils n'ont grandement besoin, parce qu'ils sont sur le bord de mourir. On va voir tout à l'heure que dans quel sens, est-ce qu'on parle de mort... que tu as perdu ton salut? Non, du tout, du tout. C'est pas ça que ça parle. Alors, il dit, « Sois vigilant, verset 2, et affermis le reste qui s'en va mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Alors, c'est très intéressant, parce que la constatation, elle se fait sur la réputation de l'Église. Qu'on le veuille pas, là, on a une réputation comme Église. Toute Église a sa réputation. Puis elle vient de où, la réputation? Elle vient des chrétiens qui vivent dedans, de nos comportements, avec toutes sortes de monde, de toutes sortes de moyens. Et les gens finissent par se faire une idée quel genre d'église qu'on est. Qu'on le veuille pas, c'est le même, ça marche. Alors, et la réputation, non seulement le Seigneur veut leur rappeler qu'ils ont une réputation, mais il veut le faire par écrit. Très significatif, même le premier verset, le premier mot du verset concernant l'église de Sardes, c'est écrit. Il veut pas que ça soit juste des paroles en l'air, il veut que ça soit quelque chose qui est écrit, écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Alors aussi, deuxième chose, il dit d'écrire à l'ange. On a vu dans l'interprétation que la plupart des commentateurs donnent, l'ange parle du pasteur. C'est comme s'il dit, écris au pasteur, dis-lui qu'il fasse son travail. Dis-lui qu'il fasse son travail. Contrairement aux autres lettres, la première lettre à Sardes, elle commence par une très sévère réprimande et non pas un soulignement des choses qu'il approuve dans cette assemblée-là. Aimeriez-vous ça, que le Seigneur jugerait notre église de Nantes, puis la première chose qu'il nous dirait, il dirait, vous êtes sur le bord de mourir. Hé, j'aimerais pas vraiment ça, j'irais me cacher en dessous du tapis à quelque part. J'espère que c'est pas ça qu'il dit, je pense pas que ce soit ça qu'il dit non plus, je serais pas porté à penser. On va voir la semaine prochaine, quand on va arriver à l'église de Philadelphie, la plupart des églises s'identifient avec l'église de Philadelphie. On est une église fidèle, on est une église qui ouvre des portes devant nous, puis il va nous sortir de l'heure de l'épreuve, de la tentation. La plus belle église auquel les chrétiens aiment s'identifier, c'est que l'église de Philadelphie. Mais c'est pas tout le temps le cas, là. Et il veut lui donner un message, il dit « écrit à l'ange », donc « écrit au pasteur », mais pour l'Assemblée, parce qu'il dit « écrit à l'Église de Sardes ». L'Église, c'est-tu la bâtisse?
Non, c'est les membres.
L'Église, c'est vous autres, les membres, les gens qui sont membres de l'Église. La ville de Sardes, ça c'est important qu'on le sache, parce que comment on... Ils disent qu'on est beaucoup influencé par notre environnement. C'est un fait. Sardes était considérée comme une ville imprenable parce qu'elle était bâtie sur un cap où il y avait trois parties de la ville qui étaient, c'était comme une abrupte, là, c'est comme, tu sais, un peu comme à Québec, ceux qui ont été allés à Québec, là, c'était comme une ville qui était comme ça. Et militairement, elle avait toujours été considérée comme une ville, tu peux pas conquérir Sardes parce que elle était comme bâtie à un endroit qui était difficile d'accès. Alors, elle était bâtie sur une colline aux parois verticales, comme une sorte de citadelle. Ça avait fait de ses citoyens des orgueilleux, puis des arrogants. Parce que quand tu penses que personne ne peut t'attaquer, qu'est-ce que ça a comme effet sur toi? C'est que tu dis, oh ben là, on s'en fait pas, ils sont pas capables de nous attaquer. Alors, elle était bien située, et elle attirait comme un aimant les commerçants et une autre catégorie de personnes, les conquérants. Il y en a que, même si c'est difficile, on va l'avoir pareil. Ils ont de la suite des idées, comme on dit. Alors, la ville était riche, la ville était prospère, la vie était luxueuse et dissolue. C'était devenu que la ville de Sardes, quand les gens de l'époque parlaient de la ville de Sardes, ils la voyaient comme une ville dissolue. Qu'est-ce que ça veut dire, une ville dissolue? Ça veut dire une ville qui vit dans des bois. C'est ça la réputation qu'elle avait. C'était devenu proverbial. Dans la littérature de l'époque, Sardes signifiait débauche et luxure. Quand les gens de l'époque parlaient d'eux autres de cette ville-là, c'était une gang de débauchés. C'était pas compliqué. Là. Alors, la richesse et la vie facile qu'elle engendrait étaient un piège auquel les habitants de la cité et les chrétiens avaient succombé. Dans le temps, ils appelaient ça « vivre à la Sarde » était synonyme de mener une vie débauchée. Quand tu voulais dire à quelqu'un « il vit à la Sarde », tu voulais dire « t'étais comme la gang qui vit là, t'étais dans le péché ». Mais c'est intéressant parce que les remarques que le Seigneur fait à l'Église ont un rappel à cette puisqu'ils se prenaient pour une ville imprenable, le Seigneur veut leur rappeler deux choses qui leur sont arrivées dans leur histoire. Dans cette paroi-là, il y avait ça devait être la température qui avait fait ça, il avait fait un genre de crack, on pourrait dire, dans le... Et il y avait un soldat qui avait échappé son casse, puis il avait trouvé un moyen de descendre pour aller chercher son casse, même si c'était à pic comme ça, il y avait... La nature avait fait un... Et il y avait des conquérants qui avaient découvert cette faille-là. C'est pas que la faille était pas identifiée, la faille était identifiée, mais ils étaient tellement sûrs de leur coup que c'est pas possible qu'une armée monte par là, qu'ils avaient négligé de surveiller cet endroit-là. Oui, les fins-fins, ils se pensaient ben fin-fin. Puis à un moment donné, il y en a qui ont le puis deux fois dans leur histoire. Alors pour les gens de Sardes, quand tu dis « Fais attention car je vais venir comme un voleur dans la nuit », ça devait allumer une petite lumière. Ça nous est arrivé deux fois dans le passé. Et c'est les deux reprises sont les indiquées dans le texte. Cyrus, en l'an 549, avant Jésus-Christ, et Antioche le Grand, en 218 avant Jésus-Christ. Donc, sur une période de 300 ans de différence, ça lui est arrivé deux fois que la ville a été prise parce que les gens ont découvert la faille et ils ont rentré l'armée, ils ont fini par rentrer dans la ville, ils ont ouvert les portes, ils se sont fait laver. Alors, le Seigneur est en train de leur rappeler un petit peu, dans le fond, par les expressions qu'ils utilisent, leur histoire. Faites attention. Dans le passé, vous avez été vaincu à cause de votre négligence. Faites attention pour que ça t'arrive encore, parce que je vais venir comme un voleur dans la nuit. Donc, il fait un appel à la vigilance, qui était sans doute un rappel douloureux aux habitants de la ville de Sardes. Eux autres, ça devait avoir un son de cloche particulier, à cause que ça leur est arrivé. Donc, la deuxième chose, la constatation, c'est qu'il veut qu'ils réalisent des choses. Et le Seigneur utilise toujours, dans sa façon de s'adresser aux gens, un titre qui lui est particulier. Quand il dit « Celui qui a les sept esprits de Dieu ». Donc, Christ a pourvu à tous les besoins, à la fois des pasteurs et à la fois des membres des églises locales, par le don du Saint-Esprit, et il donne et il entretient la vie spirituelle. Bien entendu, le chiffre 7, qui dit les sept esprits de Dieu, ça veut-tu dire que Dieu a sept esprits? Je pense qu'il parle plutôt en termes de plénitude. La plénitude, le chiffre 7 fait référence à la plénitude, au fait qu'il soit à la fois le fond inépuisable de la force. Si on a besoin de force, si on a besoin de quoi que ce soit, il faut se rappeler que c'est en lui qu'on peut trouver les choses. Donc, quand il dit que c'est lui qui a les sept esprits de Dieu. Et les sept étoiles, bien entendu, je pense qu'il est en train de parler... Des pasteurs des différentes églises, et par l'intermédiaire des ministres de la parole et de leur enseignement, Christ entretient la vie spirituelle des croyants. C'est pour ça qu'il s'adresse à eux en disant d'abord celui qui a les sept esprits de Dieu et aussi celui qui a les sept étoiles dans sa main. Autrement dit, c'est lui qui contrôle ce qui se passe dans les églises. Et les manquements des membres, ce n'est pas ce que le Seigneur n'a pas donné ce qu'il faut, c'est que les gens ne l'ont pas utilisé. Et après ça, il utilise la vérité, mais la vérité qui est vraiment dit d'une façon brutale. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Alors, les forces des ténèbres dans la ville de Sardes ont fait des gains considérables. Il y a plusieurs choses qui se sont installées. On va les nommer, puis des fois, il faut se regarder. Quand il dit que celui qui a des oreilles, il parle à des individus, il faut regarder si dans nos vies, il n'y a pas des choses qu'il est en train de reprocher à ces églises. L'hypocrisie. Si quelqu'un, dans une ville comme ça, durant une fin de semaine, il allait d'un party de débauche, puis le dimanche, il venait à l'église. À quelque part, c'était quoi si c'est pas un hypocrite? Quelqu'un qui joue un jeu comme ça, il joue un jeu extrêmement dangereux face au Seigneur. Donc, il y avait l'hypocrisie. Le formalisme, c'est quand on est rendu qu'on vient au culte juste par pour la forme. Ah, oh, ben là, mon voisin, il va parler si je n'y vais pas. Tu viens plus avec ton cœur, tu viens plus parce que tu as le goût d'être avec tes frères et tes sœurs, tu viens plus pour entendre le Seigneur te parler par un sermon, tu viens plus pour chanter les louanges, pour louer le Seigneur. C'est, le formalisme, c'est quelque chose que tu fais juste pour la forme. Ça existe. L'indifférence, le compromis, c'est sûr que les gens qui commençaient à aller jouer, à aller des parties de débauche, alors qu'ils voulaient maintenir leur vie d'église, il y avait un problème très sérieux. Et il y avait un témoignage affaibli. Imaginez-vous qu'un chrétien qui vit dans une assemblée semblable, qui allait dans ces endroits-là, puis qu'après, t'essayes de communiquer l'évangile à quelqu'un. On va dire, toi, là, l'hypocrite, là, tu m'en reparleras une autre fois, OK? Puis leur témoignage était vraiment diminué, beaucoup diminué. Il avait affaibli. Alors, tout ça, ça avait progressé dans l'assemblée, au point où le Seigneur leur parle avec une expression voulant dire... Tu sais, quand on est plus jeune, des fois, on voulait aller dans un endroit, puis on rentrait là, puis il n'y avait presque personne. On disait, « Oh, je ne vois pas là, c'est mort. » Ben là, il est en train de parler d'une église comme... T'as mort. Puis le Seigneur, il ne se gêne pas pour leur dire. Il faut faire un lien avec 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, dans le Nouveau Testament, où le Seigneur parle du même phénomène. Quand il leur dit, ayant l'apparence de la piété, de qui il parle? Il parle des chrétiens de l'époque de Timothée, mais en ayant renié la force. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Je veux dire que extérieurement, les gens te perçoivent comme comme des personnes qui vont à l'église. Mais quand tu dis reniant ce qui en fait la force, qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien? C'est sa séparation du monde. C'est l'abandon du péché. Si quelqu'un essaye de mener une vie pour essayer de concilier les deux, je vous le dis par expérience, je sais qu'il y en a qui essayent ça. Ou t'es chrétien, ou t'es païen, fais ton choix, comme on dit, mais si tu es chrétien, agis comme un chrétien. Parce que quand il dit, ayant l'apparence de la piété, il a l'air pieux, mais il ne l'est pas pantoute. Reniant la force, ça veut dire qu'il ne se comporte pas comme quelqu'un qui est à la hauteur de ce qu'il dit croire. Et regardez ce qu'il dit à la fin du verset. Éloigne-toi de ces gens-là. Si nous, dans une assemblée, on sait qu'il y a des gens qui se comportent comme ça, qui sont des hypocrites, puis si on le sait, là, notre travail, c'est de s'éloigner de ces gens-là. Mais il dit, mais tu es mort. Les apostats, quand je vous dis apostat, je sais que ce n'est pas tout le monde qui comprend ce que ça veut dire l'apostasie. Ça veut dire que tu as connu la vérité, puis... Tu t'es éloigné du groupe de l'Église volontairement. Un apostat, c'est ça. C'est, à mon avis, un apostat, c'est un faux croyant. C'est une personne qui a professé être un croyant avec sa bouche, mais qu'il ne l'est pas véritablement. Donc, c'est un païen qui vit dans une Église. Tout simple. Alors, les apostats, c'est ceux qui ont professé croire, mais dont les œuvres, c'est ton agissement de tous les jours, prouvent le contraire. Avez-vous déjà connu du monde comme ça?
Oui.
On en a connu plein. Puis plus le temps passe, normalement, dans la vie d'un chrétien, plus les années passent, plus les personnes finissent par se révéler pour ce qu'ils sont vraiment. Alors, dans notre langage moderne, nous parlons d'une église morte. On exprime souvent l'idée d'abandon de la saine doctrine. Quand vous regardez l'histoire de l'Église, là, toutes les dénominations qu'ils ont eues, il y a certaines dénominations qui aujourd'hui, pour les églises conservatrices, comme la nôtre, ils ont la réputation d'être des églises mortes. Je nommerai pas de nom, là, mais il y en a. Au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Quand on parle de cette dénomination-là, les gens dans leur esprit, surtout chez les conservateurs, ceux qui ont gardé une saine doctrine, ils regardent, ça, va pas là, ils sont morts. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ont abandonné qu'est-ce qui est saint dans la doctrine. Saint, S-A-I-N, puis saint, S-A-I-N-T. L'adoption des pratiques non bibliques. Et ça, vous le voyez de plus en plus, si quelqu'un est un observateur de la scène religieuse actuellement, il se rend compte qu'il y a beaucoup d'introductions de choses qui sont non bibliques dans les cultes. On pourrait allonger la liste, si, mais il y en a beaucoup. Alors, quand tu abandonnes la saine doctrine, puis que tu abandonnes la saine pratique, là, tu commences à t'en aller sur le chemin et que tu abandonnes ou que tu as de graves négligences face à tes devoirs que tu as dans une église, qui sont nombreux. L'adoration. Quelqu'un qui se dit chrétien ne vient pas à ses cultes. C'est un signe qu'il y a un refroidissement. Il y a quelque chose qui n'a pas compris. Il y a quelque chose qui est... Après ça, la prière. La prière, tous les chrétiens se devraient d'aimer la prière, se devraient d'en comprendre la puissance, se devraient d'en comprendre la nécessité. Comment ça se fait? Dans toutes les églises que je suis allé depuis que je suis chrétien, tu as à peu près... Quand tu as le tiers, là, tu peux te considérer une église qui est pas mal en santé. Le tiers. Ça veut dire que les deux autres tiers sont où? Ils ont-tu toutes des raisons? Oui, fort probablement qu'il y en a qui en ont. Mais fort probablement qu'il y en a qui n'en ont pas non plus. Ils ont choisi de ne pas venir prier. C'est plate comme on voit là. Quelqu'un qui dit que la prière est plate, parce qu'il n'a pas compris c'est quoi la prière, puis il n'a pas compris qu'est-ce que Dieu fait avec. L'assistance au culte, l'éducation de la jeunesse, l'acceptation de souffrir pour la cause de Christ. Ça, là, on est des champions pour se faire des illusions en pensant qu'on peut être chrétien et qu'on va les annoncer le salut et les gens vont nous donner des belles petites tapes dans le dos. Des fois, tu risques plus une petite tape sur la gueule. c'est vrai que c'est ça. Le Seigneur a dit... De la même manière dont ils m'ont traité, ils vont vous traiter vous aussi. Et on est des champions pour se faire des illusions de penser qu'on va partager l'Évangile puis que les gens nous haïront pas. Si tu veux obéir, tu vas être haï, la même chose que Jésus-Christ a été haï. Ça, c'est certain. Et ton témoignage va toujours être affaibli par soit les comportements des pasteurs, soit le comportement des membres des églises locales. Si les gens qui vous voient venir ici le dimanche matin, et moi je ne sais pas ce que vous faites dans la semaine, vous pouvez faire plein de choses que je ne suis pas au courant pendant tout. Mais si il y a des gens de vos voisins, vos amis, vos familles qui vous voient faire des choses qui sont carrément non bibliques, puis qu'après ça vous venez leur parler du Seigneur, qu'est-ce que vous pensez que ça fait dans leur cœur à eux? Moi je pourrais vous raconter des histoires là-dessus longuement. Quelqu'un qui parle du Seigneur à un autre, puis il a une croix dans le cou, puis il est quasiment... Il commence à avoir la gueule carrée, puis il fait de l'évangélisation. Là, moi, ce qui est arrivé une fois, quelqu'un que je connais, il avait une croix dans le cou, il a pris son chose comme ça, puis il a donné un coup dessus. Puis, avant de me parler du Seigneur, commence-t-on par vivre une vie qui a de l'allure. Ça surprend. Alors, il dit, tu es mort. Alors, c'est très affaibli. Là, trop autre chose, constatation qu'il fait, c'est sur la nécessité de reconstruire ceux qui sont en train de s'écrouler sous la pression. Parce qu'il leur dit, sois vigilant, il parle à qui, là? Il parle au pasteur. Il dit au pasteur qu'il est mort, disons qu'il va pas bien, il est pas fort, comme on dit. Mais il lui donne quand même la responsabilité de fortifier ceux qui sont en train de mourir, ceux qui sont en train de s'écrouler. Il leur dit, sois vigilant et affermis le reste. Donc, autrement dit, dans l'ensemble de l'Église, il y a juste un reste. C'est quoi un reste? C'est-tu la majorité?
Non.
C'est la minorité. Il est en train de lui dire, il y a une minorité dans ton Église qui ont besoin de se faire dire, Wake up! Réveillez-vous! Arrêtez ça! Il dit, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. L'heure est grave et nécessite une réaction vigoureuse, à la fois de la part du pasteur et à la fois de la part des membres qui sont sur la voie du compromis. Compromis nous guette. Les œuvres sont très superficielles et très imparfaites. Tout dans la vie spirituelle de l'Église doit être réajusté. Si on dit qu'on est formaliste, formaliste, ça veut dire quand on adore, notre cœur n'est pas là. C'est ça être formaliste. Tu adores, tu loues le Seigneur, mais ton cœur n'est pas là. Tu chantes, mais tu ne penses pas aux paroles qui sont dites, qui ne sont pas dans le fond de ton cœur. Tu es un formel. Donc, il y a plusieurs choses qui ont besoin d'être réajustées. L'adoration, la centralité de la personne de Christ, l'obéissance. Bien entendu, je pense que cette Église-là avait besoin de se réajuster en obéissant. Le rejet de la vie dissipée. S'il dit « fortifie quelques-uns qui sont en train de mourir », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en avait quelques-uns dans l'Assemblée qui avaient commencé à jouer à ça, à vouloir mener une vie double. La vie double, là, pour un chrétien, ça ne marche pas parce que tôt ou tard, le Seigneur va juger. Et parfois, les jugements sont sévères. Donc, le rejet de la vie dissipée et aussi de l'immoralité sexuelle et le rejet de toute forme d'idolâtrie. Le besoin pour tous ces gens-là de se replonger dans les saintes Écritures. Le livre, tant négligé. Seigneur nous a donné un cadeau d'une valeur infinie qu'on néglige malheureusement. Donc, se replonger dans les saintes Écritures, se replonger dans la prière, se replonger dans l'amour fraternel. Combien de fois tu vas dans une église? Des fois, ils sont 30, 40, 50, 60, 100. Tu sens qu'il y a des conflits, il y a des petites gangs. On est-tu dans l'amour fraternel en ce temps-là? Dans la discipline ecclésiastique, il y a de moins en moins d'églises. Parlez-en à n'importe quel pasteur. Voir si la discipline se pratique partout dans les assemblées. Quand ça ne se pratique pas, quel effet que ça a? Comme le levain. Ça fait lever toute la pâte. Et aussi l'évangélisation. On a besoin de se remettre dans l'évangélisation et on a besoin de se remettre dans des vies sanctifiées. C'est un besoin. Quand on parle d'affermissement, c'est un impératif. Quand on parle d'un impératif, c'est un commandement. Il faut que tu fasses ça. Si tu ne fais pas ça, là, c'est la débandade totale ou c'est le jugement qui s'en vient. Alors, pour aujourd'hui, on va arrêter là. On va être rendu au point 2 pour la semaine prochaine.